plongez et puis vous calculez vos tables et vous plongez, vous êtes un peu les expérimentateurs de vos tables. C'était tout à fait vrai dans toutes sortes de profils. Mais maintenant, le recul et les centaines de milliers de plongées tech qui ont été faites dans le monde ont permis un peu de valider tous ces profils de décompression. Alors au niveau de la décompression, la principale évolution qu'il y a depuis une dizaine d'années, c'est la prise en compte de tous les microbulles. Voilà. Donc la prise en compte des microbulles, ça a permis de mettre en place des programmes biphasiques, c'est-à-dire que d'un côté, il y avait un programme indanien, en général du Bulman, qui fonctionnait, et de l'autre côté, il y avait un autre programme, et ce programme-là, il prenait en compte l'existence des microbulles, avec certaines tailles de microbulles, et le but du modèle, c'est simplement de contrôler le volume de la bulle qui augmente au fur et à mesure de la remontée, en l'empêchant de dépasser un certain diamètre. On avait vu ça dans le cours. Donc, on a été de plus en plus. Alors, il y a plusieurs niveaux de modèles biphasiques. Il y a, on va dire, bon, le RGBM, c'est le plus connu, il y a du VPM, il y a du Young, il y a un petit peu tout ça, mais il y a plusieurs niveaux dans le système. C'est-à-dire que si vous prenez un ordinateur Viper, par exemple, j'en ai un, et bien là, c'est du RGBM marginal. C'est-à-dire que si vous comparez avec un Aladdin, vous faites une plongée carrée, ce sera à peu près pareil. Si vous commencez à faire des yo-yo, des remontées, là, il va vous mettre des microbulles. Donc, les microbulles travaillent à la marge. Après, vous avez, on va dire, du RGBM moyen, c'est un peu toutes les tables Nowitech qui ont été mises au point, validées, etc., 70, 80 mètres par Nowitech, parce qu'ils ont été une des premières fédérations tech à accepter le RGBM. Et là-dessus, j'ai une version qui est, je crois, plus ou moins expérimentale, ça a peut-être échangé depuis, hein, et qui était un full RGBM, c'est-à-dire pratiquement que du RGBM en supprimant presque l'aldanien des côtés. D'accord ? Alors, le problème, c'est qu'après, on a été trop loin dans les paliers profonds. En toute chose, il convient de trouver le juste milieu, et on a été un peu trop loin. C'est-à-dire que, dès qu'on commence à faire des paliers profonds, eh ben, d'un côté, c'est bien, parce qu'en 30 secondes, on évacue la majorité des bulles circulantes, mais de l'autre côté, en même temps, on sature sur les tissus longs. Et voilà. Donc quand c'était, je ne sais pas, il y a 3 ans, il y a plusieurs années que je voulais essayer ça, moi j'ai testé, ce qui est intéressant pour connaître au niveau d'une table, c'est qu'il faut la tester jusqu'à ses limites. Et les limites d'une table, c'est la cratch, pour savoir comment elle marche. Et donc j'avais fait tout un programme, j'avais fait une vingtaine de plongées, et le but c'était de déclencher les accidents de décompression, pour voir qu'est-ce que ça avait dans le ventre de RGBM. Donc j'ai commencé, j'ai fait une vingtaine de plongées entre 75 et 145 mètres, en avançant puis en déclenchant l'accident de décompression pour voir un peu ce que ça avait. Et donc, alors, sur des petites plongées à 75-80 mètres, ça va, il n'y a pas trop de problèmes. Toujours sur des temps loisirs. Hein. Un temps loisir, c'est 10-15-20 minutes, hein, pas plus. Hein. D'accord ? Et là, ça allait. À partir de 100 mètres, on commence à avoir des problèmes, on remonte, on est très très chargé, etc. Et quand on dépasse 120, on commence à coincer, et 140-150, on coince franchement. J'avais fait une plongée, les premiers paliers étaient à 128 mètres. J'étais tout seul comme ça, dans un purée de poids à 128 mètres, en train de remonter, c'est pas terrible. C'est pas terrible, on charge énormément.
Ça fait ça sur tout là.
Sur moi, oui. Oui, mais ça suffit un peu pour le savoir déjà, ça plante. Quoi. Le but était d'amener jusqu'à ce que ça plante. De toute façon, vu le profil, si tu te plantes, c'est du bend. Donc, du bend, ça fait mal, mais ça fait que mal. Il hein. Faut pas en faire 36, ça fait pas
une juste question, c'est pas ça. Un bend, ça ressemble à quoi? Parce que moi,
bah, c'est très simple. Pour déterminer un gars qui a un bend...
On veut toujours voir de bend, mais moi, je
sais pas. Les gars, c'est pas les années 70, plein de moniteurs, on avait plein de bends. La caractéristique principale pour un bend, le gars d'un seul coup, il a une douleur. Il a une douleur au coude, au bras, à ce que tu veux, ou au genou. Bon. L'important, c'est de savoir si la couleur vient d'un bend ou si elle vient d'un choc qu'il a fait sur le front ou autre. Et la particularité première, c'est qu'en général, toutes les douleurs sont... la force de la douleur est liée à la pulsion cardiaque. Ça fait boum, boum. Vous voyez quand on a mal à la tête, par exemple. Ouais. Boum, boum, boum. Donc une douleur classique, elle fait boum, boum, boum. Une douleur liée au bend, elle est continue. Il n'y a jamais aucun relâchement avec la pression cardiaque. Et ça, c'est l'élément principal pour bien repérer cette douleur-là. Et c'est en général très vif et tout ça. Oui, c'est permanent, c'est continu. Que l'on bouge ou que l'on bouge pas, la douleur est toujours présente. Voilà.
Et après, dans le temps, parce que là, le VELS, il va être traité.
Oui.
Il va pas s'en aller de suite, parce qu'il va y avoir toujours un petit peu de... Parce que si là, on...
Non, après, il faut traiter l'oxygène. Bon, l'idéal des VELS et compagnie, c'est de prendre de l'aspirine et de traiter à...
Parce que ça suffit sur l'oxygène de l'aspirine.
Sur des petites plongées, en général, moi j'ai rencontré, hormis une propre expérience, par des plongées trimix que je fais, j'ai eu une demi-douzaine de bends sur des plongées, mais qui est souvent liée à des bêtises. Hein. Qu'est-ce qu'il y a eu comme bêtise? Les premières, c'était donc plonger un quart d'heure à 80 mètres en Bretagne sur épave. Le gars, d'un seul coup, il remonte du palier et qu'il avait mal où, lui. Tu vois plus, c'était au cou, là. Oh là 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 là, le mal. Bon, moi j'étais sur le bateau, j'ai fait ma première plongée seul d'abord, j'arrive, et puis je lui donne de l'oxygène, et puis en un quart d'heure, 20 minutes, c'est parti. Je demande pourquoi, et tout ça. Bon, le lendemain, on voulait replonger. Je dis, ça fait pas, c'est pas terrible que tu replonges et tout. Ouais, je veux plonger. Bon. Il insiste, il replonge, il remonte, et pareil, un bend.
Au même endroit.
Au même endroit. Je veux dire, quelque chose qui ne va pas, d'accord. Alors là, cette fois-là, avant de lui donner de l'oxygène, je dis, tiens, on va retirer la combinaison sèche, ainsi de suite. On a tout retiré la combinaison sèche, et puis il y avait l'empreinte de la valve qui était là, et elle était positionnée, au lieu d'être là, légèrement là, et puis après, il y avait, on voyait bien l'empreinte et tout ça. Et donc, j'ai supposé que l'explication était là, et le fois d'après, il voulait encore replonger, et je lui ai dit, tu mets des surépaisseurs, il a mis des sweatshirts de plus pour bien protéger, et il n'a eu aucun problème. Une autre fois, j'ai vu, c'était Cédrine Verdier, elle était sur, je pense qu'elle a fait toute sa décompression dans le courant, juste sur un bras et tout ça, et puis hop, ça fait ça. Donc moi, j'avais de l'oxygène pur, parce que pour les Italiens, et puis j'ai pas confiance, donc j'ai passé un bloc, et puis elle a fait des compressions comme ça, c'est parti, et voilà. Alors le problème, ce qu'on rencontre de particulier avec les accidents de décompression qu'on fait avec du RGBM, c'est qu'on arrive à des descriptions cliniques d'accidents tubistes. C'est vraiment incroyable, c'est-à-dire que on arrive à des chocs, si tu sais qu'un choc.
Ouais, un choc, c'est comme un bend, non? C'est la même chose,
non? Qui sait qu'un choc? Avant, ça faisait partie des cours, un choc. En fin de compte, c'est un engorgement général au niveau des poumons. C'est un engorgement de microbules au niveau des poumons qui crée des difficultés respiratoires. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on remonte, on est chargé. C'est-à-dire que on remonte, on est bien, donc on n'a pas le coup de fatigue. C'est-à-dire que la fatigue, les niveaux de fatigue vient vraiment d'un problème de décompression. C'est-à-dire qu'on a le coup de fatigue qui est après les plongées à l'azote et tout ça. On est bien à ce niveau-là, mais parfois on sent une tension dans tout le corps et là, rien qu'un t-shirt, ça devient gênant, le contact tellement on est surchargé et gonflé. Il y a l'impression quand on fait des RGBM purs, hein, qu'on est à la limite de si on est secoué tout par en bulle, quoi. Et après, il y a des quantités, c'est-à-dire qu'on est chargé de gaz, c'est-à-dire que ça a été beaucoup trop court, ça a réduit beaucoup trop les paliers de surface, le corps n'a pas pu évacuer toute la charge d'azote et d'hélium qu'il y a dans le corps, mais on est à la limite et ça passe parce que les microbules ont été évacués. Vous comprenez, c'est cette impression-là que ça donne. Alors, j'ai vu que l'année dernière, ou cette année, en 2004, il y a VPMB qui a sorti justement un nouveau profil en modifiant un peu les paliers profonds et les paliers longs et en raccourcissant un peu les paliers longs et en rajoutant du palier de surface. Parce qu'on avait été trop loin dans les microbules. Donc, il faut prendre en compte les microbules, c'est l'avenir de la plongée, mais il faut, trop peu s'en faut, c'est pas la peine d'aller beaucoup trop loin. Alors, maintenant, au niveau des ordinateurs. Quand on prend un ordinateur, alors, maintenant, ils sont tous fiers, c'est-à-dire qu'il y a l'algorithme de Bühlmann. Et tous vous offrent la possibilité de bouger ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez rajouter l'altitude, on va regarder, donc on peut mettre en place l'altitude, on peut mettre en place des éléments physiologiques, on voit des éléments personnels. Alors il vous demande si vous êtes un mâle, si c'est un homme, une femme, si vous fumez, si vous ne fumez pas, dans quelle tranche d'âge vous avez, votre condition physique, hein, votre condition visite, si vous avez le poids, trop de poids, pas assez de poids, etc. Alors, sur votre expérience, c'est-à-dire si vous avez plus d'un, etc. C'est-à-dire qu'il rentre en jeu des éléments qui sont liés à des statistiques. C'est-à-dire qu'au niveau des accidents de plongée, par exemple, chez les hommes, il y a beaucoup d'accidents pour les débutants. Au fur et à mesure que l'expérience avance, il y a de moins en moins d'accidents. Mais on remarque chez les hommes qu'il y a une remontée des accidents avec l'expérience. Hein? Non, parce que les femmes, c'est comme ça, et ça remonte jamais. C'est-à-dire que les femmes, elles mettent leur expérience au service de leur sécurité et ne vont pas plus loin dans la prise de risque. Tandis que l'homme, il acquiert de l'expérience, il est de plus en plus à l'aise, et cette aisance, il va la réutiliser pour pousser plus loin et pour aller plus loin dans les limites, et il va reprendre des accidents. Et donc, ils tiennent compte de tout ça, si vous mettez tout ça.
Est-ce que tout ça, c'est pas trop compliqué pour la
et ça vous donne des scores. Là, il y a un score de 75. Oui. Si je me mets, par exemple, plus de 21 ans d'expérience, il y a toujours 75. Mon niveau de moniteur, ben, je suis instructeur, clac, je suis chop, ben, j'ai un score de 85 alors qu'avant j'étais à 75. On rajoute des notions de CAVE, est-ce que je suis en CAVE, j'ai un niveau de CAVE, etc. Tout ça, ce sont des éléments qui sont mauvais et qu'il ne faut pas utiliser. C'est-à-dire qu'il y a la température de l'eau, il y en a jusqu'à 600 dans la vis. Mais tous les programmes vous en proposent des centaines. Pourquoi ? Parce que les algorithmes ont été définis par rapport à des quantités d'expériences humaines très très importantes. D'accord ? D'accord ? Des expériences humaines très importantes. Chaque chose qui est indiquée a quelque part de vrai. C'est-à-dire que les gars qui sont un peu plus dans mon point, on sait qu'ils ont un peu plus d'accidents de décompression. Ceux qui sont un peu plus âgés, ils ont un peu plus, etc. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des éléments par-ci, par-là, qu'on est capable de quantifier. Et après, ça vient modifier une formule qui était très précise, de façon totalement aléatoire et qui n'a jamais été testée. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'on est incapable, en durcissant une formule mathématique, de sortir un résultat qui est fiable. Le mieux, c'est uniquement, comme autrefois, de sentir votre corps. C'est-à-dire que, on disait avant, si tu ne te sens pas, ne plonge pas. Et bien là, en plongée tech, ça va être exactement pareil. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'instinct de « on se sent bien ou on ne se sent pas bien ». D'accord ? Et par rapport à ça, c'est à vous dans l'eau, en fonction du moment où vous allez vous sentir bien ou pas vous sentir bien, d'allonger éventuellement les paliers parce que vous ne vous sentez pas bien. D'accord ? Et les paliers, pas un palier à mi-profondeur en doublant. Il faut éventuellement, si vous allongez des paliers, il faut les rajouter un petit peu avec l'expérience sur le haut, mais pas se rajouter sur le bas. D'accord ? Donc le plus important, c'est ça. Et il faut savoir qu'un accident de décompression, ça s'initialise la plupart du temps sous l'eau. C'est-à-dire qu'on le sent arriver sous l'eau, on sent que ça ne va pas. Qui a eu un accident de décompression déjà ici ? Personne. Bon. Un accident de décompression avec un peu d'expérience et un peu de doigté, une fois qu'on en a eu un certain nombre, on est capable de le sentir et on le sent arriver sous l'eau. Et c'est par rapport au moment où on le sent, quand on est toujours sous l'eau, qu'on peut modifier sa décompression. Mais bon, là, il faut avoir quand même une certaine écoute de son corps et avoir une certaine expérience. Le problème, tu vois, c'est comme le Benz. Qu'est-ce que ça fait comme impression ? Eh ben, le truc est simple, t'arrives, le diagnostic, c'est 2 secondes. Quelle est la nature du mal ? Est-ce que le mal, c'est boum, boum, boum avec le cœur, ou est-ce que c'est toujours continu, et le fait d'arrêter le bras, etc., tu n'arrêtes pas le mal. Si le gars, il a pris un choc, ou qu'il s'est cassé l'os ou autre chose, le fait d'immobiliser et de rester dans une certaine position, le mal s'arrête. Là, c'est constant, 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 constant au niveau d'un MEMS.
Bon, et durant la remontée, durant tes paliers, tu t'aperçois que t'as un MEMS.
Tu t'en aperçois pas vraiment, c'est qu'il t'aperçoit en général, c'est qu'il te fait mal à 3 mètres ou vraiment à ras de la surface. Non, tu sens en toi que ça va pas. Donc là, la seule technique, c'est de ralentir la décompression et de rajouter des paliers supplémentaires pyrométriquement. C'est pas le choix.
Ça veut dire ça, avant l'apparition du Benz,
tu sens que quelque chose qui commence à ne pas être bien. Mm-hmm. Tu sens que t'es pas bien. Et un des critères fondamentaux, c'est d'être bien au palier. Quand on est bien au palier, qu'on se sent bien au palier, on est bien, on est content. Quand on est bien, quand on est content, c'est que tout va bien. Voilà. Et après, des moments, on est là, on dit, tiens, ça va, me sens bien. Alors vous dites, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est du pifomètre, c'est de la psychologie. Moi, je ne vous dis pas de sauter les paliers, de faire ce que vous voulez. Mais l'important, c'était d'être à l'écoute de son corps et que le corps vous donne souvent la réponse à vos problèmes. Et qu'à un peu d'expérience, on rattrape pas mal de situations. Sachant que la seule chose à éviter, toujours, c'est... La première chose à éviter en plongée tech, c'est la noyade, parce que la première cause de décès, c'est les gens qui se noient dans leur matériel à cause du poids, du suréquipement et tout ça. Et la deuxième chose, eh ben, c'est l'accident neurologique qui serait lié à une remontée rapide ou autre chose.
Est-ce qu'on peut avoir un problème qu'on s'est un peu tous posé, à savoir, tu planifies une plongée, donc tu fixes ta profondeur max, ton PPO de masse tolérable, ton temps de fond, ton débit, tes quantités de gaz. Et la question que tu te poses, c'est qu'est-ce que je fais pour la décompression? Comment on dit optimisation de la décompression, sachant que je ne veux pas me trimballer.
C'est-à-dire que le choix, et bien, c'est en fonction de ton lieu de plongée, du matériel dont tu disposes, et de la charge, et de tout ce que tu veux organiser.
Alors, on va dire que tu as un bloc de déco. C'est la question qu'on peut se poser, mettons dans le cas du Nord aussi, ce qui est par Marco le cas de tous les gens ici. Une plongée, là je regarde sous les plans, une plongée à 70 mètres de 17 minutes, je prends 19,42, donc 19 oxygène, 42 d'hélium. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce que je prends comme mélange de déco? Bon. 32, 40, 50.
C'est la première question qui est importante, c'est-à-dire que toute la philosophie de la plongée trimix élémentaire, ça marche que jusqu'à 60. Alors, mettez-vous bien dans votre tête que les 70 mètres, 75, c'est une connerie législative, d'accord? Hein, toute l'idée qu'on peut faire une plongée avec un seul gaz, sans un mètre d'écho, etc., ça marche que jusqu'à 60, en suivant son ordinateur. Mmh. Dès que vous dépassez 60, vous devez considérer, même si sur le papier, au niveau législatif, vous n'êtes pas en plongée trimix avancée, dans la réalité, vous êtes en trimix avancée.
D'accord.
Alors, ça, c'est vraiment fondamental, mettez-vous bien dans votre tête que vous êtes au niveau physiologique et au niveau décompression à 70 mètres en situation de trimix avancée. Voilà, ça, c'est vraiment à mettre dans votre tête. Et donc, il faut faire très attention à sa décompression. Et après, ce que vous voyez, on a vu dans le cours, c'est-à-dire que si on n'a qu'un seul mélange à prendre, eh bien, il est beaucoup plus rentable de le prendre de l'oxygène à ras de la surface que de prendre du 80 à partir de 9 mètres, que de prendre du 70 à partir de 12 mètres, ainsi de suite. Mais là, après, on a des choix de configuration. Chez les spéléos qui battent des records, c'est facile. Ils ont des charpents et puis ils changent de gaz tous les 3 mètres. Ou alors on fait une décompression avec un circuit fermé et qui vous maintient la PPO2 constamment.
Le Pékin où nous sommes, qu'est-ce qu'il fait comme choix?
C'est à vous de choisir. Voilà. Et on veut justement, on va voir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de critères. C'est à vous de projeter votre plongée. Et après, par rapport à la plongée, vous allez faire votre plongée avec une configuration de matériel qui vous convient. Et c'est avec l'expérience que vous allez dire, eh ben, ça me convient, je suis trop chargé, je ne suis pas assez chargé, etc. Mais ça, on le verra. Il n'y a pas de solution. Moi, j'ai essayé toutes sortes de solutions, il n'y a pas de solution idéale. Alors, il y a beaucoup de fédérations américaines, comme on a vu, et ça, c'est un principe pédagogique, on a tendance à standardiser. Parce qu'en standardisant l'équipement, eh ben, ça permet au niveau des équipes de standardiser les méthodes d'intervention, de standardiser les... Voilà. Mais il n'y a pas.
Pour moi, je suis d'accord par l'équipe.
Et ça n'a pas d'importance maintenant. Maintenant, on est dans une situation où le matériel déjà loisir n'est plus standardisé. C'est-à-dire que le Pékin qu'ils ont ensemble, ils sont absolument que l'un et l'autre voient leur matériel, savent déjà la stable comment elle est. Entre ceux qui ont des stables automatiques, je ne sais pas comment, ceux qui se mettent de ce côté ou ceux qui se mettent de l'autre, un plongeur loisir doit déjà avoir la démarche par rapport à son partenaire de regarder son matériel. Et bien en plongée tech, c'est pareil. À la seule différence, c'est que quand on fait une plongée tech à 100 mètres, c'est même pas la peine de compter pouvoir intervenir sur la personne qui est en face. Il faut être totalement autonome, redondant, et voilà, on peut l'aider pour éventuellement un plan mêlé ou autre chose, mais s'il y a un problème de départ de stress et en termes de volume de gaz, ça passera jamais. Donc alors, mon opinion par rapport à tous ces éléments qui permettent de durcir, laissez tout ça neutre et ne vous en servez pas, parce que ça va vous fausser, ça va vous durcir l'algorithme d'une façon qui n'est absolument pas testée, qui est complètement idiote. D'accord ? Chaque élément est vrai. Si vous êtes dans l'eau froide, si vous êtes dans l'eau chaude, si vous êtes vieux, si vous êtes ça, vous êtes décompressé d'une certaine façon ou d'une autre. Voilà. Le problème, c'est que physiologiquement, chaque personne est différent d'une autre. Donc déjà, c'est pas toujours vrai que les plus gros ils décompressent moins bien ou ils ont plus de gaz que... Voilà. Surtout, comme je vous l'ai dit, hein, c'est très bien. La graisse, l'azote, par exemple, il se stocke bien dans la graisse. C'est très bien. Et la cellulite, qu'est-ce que c'est? C'est 80% d'eau. Alors, déjà, sur une cellule de cellulite, il n'y a que 20% de graisse. Alors, on en stocke beaucoup moins qu'on ne le pense. Hein. On n'est pas un bloc de Saint-Doux. Ça ne marche pas comme ça. D'accord? Donc, vous avez tout ça, ce qu'ils appellent les défauts. Et après, chez Abyss, vous avez... vous remplissez, il y a personnel, alors RVM, c'est, bon, il y a une version qui est française au moment, qui sait qui en veut, parce que j'en ai ceux qui veulent charger en français pour moi.
Gardier qui l'a traduit dans
la compagnie. Non, c'est, comment il s'appelle, Mike Busitili.
Dans Abyss, un corps neutre, c'est...
Ça, c'est un français, donc qui veut le mettre, comment?
Dans Abyss, un corps neutre, c'est
50. Non, c'est... Non, c'est... Je sais pas. C'est, mais je ne vous laisse pas trop jouer là-dessus.
Parfois, il y a un neutre, c'est 0, d'autres neutre, c'est 100,
d'autres... C'est... Ouais. Laisse tomber tout ça, et valide pas trop.
Sans en plus, si on met, si on rajoute des éléments comme ça, en fait, déjà, on risque de nous mettre plus de paliers.
Et ces paliers qui ne sont pas adaptés, ils ne sont pas logiques par rapport à l'algorithme de décompression.
D'accord.
Un algorithme de décompression qui a été testé et validé.
D'accord.
Voilà.
Ils ne sont pas testés et validés, en backup.
C'est n'importe comment. C'est comme dans Abyss. D'accord.
C'est combien de mégas
Non, pas grand-chose. Donc, ce qu'il y a aussi, c'est que ce qui est fondamental dans tous les programmes, vous devez remplir votre respiration par minute. C'est pour ça que dans les exercices de cours trimix, on doit voir, calculer sa respiration réelle. Voilà. Et calculer sa respiration en déco. Sachant qu'en déco, on consomme presque 50% de moins facile quand on est en décompression que lorsqu'on est en gastro. Donc vous devez rentrer ça.
Mais ça, c'est uniquement pour le calcul des gaz.
Ça, c'est uniquement pour le calcul des volumes des gaz. Mais le calcul des volumes des gaz est important parce que chaque fois qu'on va faire une plongée profonde, c'est souvent les volumes de gaz qui créent la contrainte la plus importante. Et on ne se dit pas, on va faire une plongée, bon, maintenant c'est un mètre. On ne se dit pas, je vais faire 15 minutes à 105 mètres. Parfois, on fait 15 minutes à 105 mètres, et on se rend compte, merde, qu'il ne faut pas 3 mètres cubes, il faut 3 mètres plus 5. Alors, là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, plutôt que de faire 15 minutes, c'est peut-être mieux de faire 13 minutes et rentrer dans le bloc, plutôt que, pour ça en plus, rajouter le double de bloc, quoi. Il faut essayer d'adapter au mieux. Comme défaut, qu'est-ce qu'il y a? Après, optimisation des gaz, ça n'a pas d'importance. Hein. Alors, les limites, alors c'est pareil que là, sur Abyss, il vous permet de mettre vous-même vos limites, c'est-à-dire que quand vous allez, on verra, les limites, c'est par rapport au CNS, c'est-à-dire est-ce que vous utilisez un 4, un 5, un 6, etc. Il vous pose la question par rapport au fond, il vous pose la question par rapport en déco. Hein, j'ai dit souvent, il est totalement inutile d'aller gratter une pression partielle d'oxygène élevé sur le fond, c'est prendre un risque inutile parce qu'on ne gagne pratiquement rien en décompression. Donc sur le fond, vous mettez un 5 ou un 4, et quand vous êtes en déco à la surface, vous pouvez être à un 6. C'est pas trop gênant.
Pourtant, un 6 finalement, c'est le... On passe davantage de temps au ras de la surface, donc un 6, normalement, ça devrait être plus défavorable du point de vue des facteurs oxygène.
Oui, mais comme il y a des facteurs de mémoire et des fixtures cumulatifs, c'est pas la peine de commencer à accumuler par rapport à des radicaux libres, des quantités de radicaux libres dans le corps profond. Donc autant mettre ça à la fin. Et surtout, la dernière tendance, je vous ai dit, c'est pas la peine de faire par rapport à 6 mètres, c'est totalement inutile de chercher à voir. Par exemple, en général, ce que je fais, c'est que je fais pratiquement tous les paliers à 6 mètres, une arrivée à 6 mètres. Mais je ne reste plus à 6 mètres maximum, parce que 6 mètres, déjà, en mer, on a tendance à bouger, voilà. Une fois que j'ai fait, je ne sais pas, moi, s'il y a 10 minutes à 6 mètres, je fais 10 minutes à 6 mètres, et après, je ne remonte pas à 3 mètres, mais je me mets entre 5 et 4. Parce qu'actuellement, ils sont en train de faire des études, ils ne sont pas encore publiés, et on évacue, on décompresse beaucoup mieux entre 4 mètres et 5 mètres que à 6 mètres. Alors que d'un point de vue mathématique, au niveau de la fenêtre en oxygène, on devrait évacuer beaucoup plus d'azote ou d'hélium en étant à 6 mètres d'oxygène pur qu'en étant à 5 mètres. Mais dans la pratique, l'oxygène est aussi un gaz toxique qui agresse, donc le corps se préserve d'une pression partielle d'oxygène élevée, et donc il y a des phénomènes de vasoconstriction, des phénomènes de... tout un ensemble de phénomènes qui fait que ce n'est pas les mathématiques qui marchent totalement. D'accord. Donc, et détendez-vous, c'est-à-dire vous êtes à 6 mètres, c'est bien, vous avez fait votre temps à 6 mètres, et après traînez entre 4 et 5 mètres pour faire votre palier à 3 mètres. Mais ne cherchez pas forcément à être toujours à 6 mètres ou en vous mettant à 7 mètres en disant je vais décompresser presque vite quand je perds 7 mètres. Non, pas du tout. On décompresse mieux quand on est à 5 mètres plutôt qu'à 6 mètres. D'accord. Ça, c'est un élément qui est important. Alors au niveau de la décompression, qu'est-ce qu'ils disent au niveau de la décompression? Oh non, là, ils proposent différents gaz de décompression pour accélérer, si vous avez des gaz type, mais ça c'est à utiliser. Au niveau de l'ascension, la vitesse, alors ça c'est fondamental, c'est-à-dire que quand je fais des cours avec des gens plus expérimentés, on fait des calculs de vitesse de descente et de décompression, de vitesse de descente, parce qu'il est important d'apprendre à calculer exactement sa vitesse et avoir une vitesse régulière. Quand vous êtes à 50 mètres, c'est pas grave, mais quand vous faites une plongée à 100 ou 120 mètres, et bien si vous descendez à 15 mètres minute, ça fait un certain temps, si vous descendez à 30 mètres, ça fait un certain temps. Donc il faut d'abord savoir sur quelle base vous descendez. Donc il est important, avec l'expérience, de se chronométrer et de se mesurer. Je sais que, bon, en général, on est beaucoup plus lent au départ. Pourquoi on est plus lent? On est plus lent parce que la combinaison est pleine, parce qu'on s'ajuste, parce qu'on peut les compresser, etc. Dès qu'on commence à avoir passé 30 ou 40 mètres, ça défile, bon, il faut avoir une position relativement droite, bien se stabiliser et avoir une vitesse de descente régulière. Et puis se mettre sur du 30 mètres minute, c'est correct, quoi. Mais on n'arrive pas à faire les 30 mètres minute. Et il ne faut pas souffler, et le mieux, c'est que ça va descendre, les pieds devant, etc., plutôt que la tête devant. Quoi. Toujours. Et il y a un élément fondamental aussi, en plongée profonde, mais que ce soit à l'air ou tech ou autre chose, c'est par rapport à la vue. Essayez toujours d'avoir des repères visuels. Un des éléments les plus importants, surtout au niveau de la larcose, c'est que nos yeux sont conditionnés pour toujours avoir des repères constamment. À partir du moment où vous restez 2-3 minutes dans le bleu, il y a un phénomène de désorientation qui se produit. Et si en plus il y a de la narcose, il y a Palmer, l'anglais qui est mort comme ça en mer rouge, pendant une descente dans le bleu par 110 mètres, et puis il n'était pas à côté du tombant, il était au large, et puis le corps a continué, et puis voilà quoi. Donc faites très attention. Le fait de descendre les pieds devant et de contrôler ses instruments, ses vitesses de descente et tout ça, ça vous donne des supports visuels qui sont très importants. Donc c'est pas la peine de descendre comme des cow-boys la tête devant.
Bonsoir.
Bonsoir.
On m'a dit que j'étais à 8h30, je suis à l'heure.
D'accord, donc ça c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que vous allez devoir, en accédant là, aux plongées trimix, vous allez devoir contrôler votre vitesse de décompression et avoir une vitesse régulière. D'accord. Donc à partir de moment, après vous allez pouvoir contrôler votre vitesse de remontée. Votre vitesse de descente, c'est vous qui mettez votre vitesse de descente. Alors il vous le dit, entre 0 et 10 mètres, entre 10 et 30, c'était vous qui réglez. Et sachant que plus on va profond, plus on a tendance à aller vite. Mais c'est pas la peine de dépasser du 30 mètres minute, ça me semble tout à fait correct. Et puis c'est bien, c'est pas la peine de débouler à 40 mètres minute, etc. Quoi.
En descente, oui. Pour du 15 mètres minutes, notamment standard sur des plats.
Oui, mais là tu le mets toi-même, tu vois, c'était toi qui décides. Mais un 15 mètres minutes,
tu recommandes
un 15 mètres. Non, je dis qu'en général, bon, sur moi, quand je descends, je fais 30 mètres minutes. Mais souvent, quand tu passes les 15 premiers mètres, eh ben, tu dois être à peu près à 15 mètres minutes, parce qu'avec la décompression, la combinaison de temps et tous ces trucs-là, on est beaucoup plus lent à démarrer que lorsqu'on est au fond. Dès qu'on descend, on a une vitesse régulière qui est de mieux en mieux. On a de moins en moins à décompresser, on a trouvé son positionnement hydrodynamique, et puis on y va, on se positionne, on est là par rapport à...
Vous avez une vitesse de remontée, alors ça c'est pareil, hein. Vous avez vos vitesses de remontée.
Vous pouvez les calculer comme vous-même, comme vous le désirez. Hein, si vous le laissez, les... Alors, quelque chose à savoir, c'est que Bühlmann, il remonte à 10 mètres minute, mais il remonte à 10 mètres minutes qu'à partir de 40 mètres. C'est-à-dire que quand il est en dessous, il remonte beaucoup plus vite. Hein, s'amuser sur une 150 mètres ou une 200 mètres à remonter à 15 mètres minutes, c'est du n'importe quoi. Hein, il faut se casser du fond, Hein. Hein. Alors, cette remontée lente est très importante, mais il faut bien se souvenir que toute l'expérience acquise par les plongeurs professionnels n'a aucune valeur pour les plongeurs yo-yo. D'accord. C'est-à-dire que quand on remonte sur une vitesse de décompression à saturation, ça n'a rien à voir avec un gars qui fait juste un aller-retour comme ça. D'accord. Donc n'hésitez pas complètement à accélérer la vitesse de remontée.
Ah, c'est moi.
D'accord. Et je peux vous dire, même si vous êtes, si vous faites une plongée à 130 mètres, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez y aller de toute votre énergie pour remonter. Déjà à 130 mètres, on est lourd. Le temps de gonfler, le temps d'y aller, vous pouvez y aller tout ce que vous voulez. Vous aurez du mal à faire du 20-30 mètres minutes pour remonter. Du 20-30 mètres minutes, ça n'est pas important. Après, l'important, vous commencez à freiner quand vous êtes à 80 mètres à la remontée. Disons de 80 mètres à 40 mètres, vous vous baladez sur du 15 mètres minutes, du 15-18 mètres, quoi. Du classique, on va dire du classique militaire, parce que... Que ce soit les 1m90 sont toujours à cette profondeur-là, les deux stages sont pareils. Donc vous y allez comme ça, et dès que vous arrivez à 40 mètres zone dangereuse, on commence à ralentir à 15 mètres minutes. Le principe ensuite, c'est que dès que vous commencez à rentrer dans la zone de palier à partir de 20 ou 30 mètres, hein, et là vous remontez plus sur du 6 mètres minute, autre chose, et moi j'ai l'habitude de faire les 6 derniers mètres, et bien je les remonte pratiquement à 1 mètre minute. Quand je remonte les derniers mètres après une décompression, je remonte pratiquement tout doucement, et je me suis en général à 1 mètre minute pour les derniers mètres. Ça c'est important, et ce qui est important de se souvenir, c'est que les 20 minutes qui suivent à peu près la décompression, c'est toujours une décompression en surface, et ne jamais faire d'effort. Hein. Donc quand vous arrivez, il vaut mieux se laisser flotter à ras du bateau. Après, moi sur mon dosia, qu'est-ce que j'ai? Eh bien j'ai des sortes de câbles qui pendent, et j'accroche mon bloc et je retire tout le bloc. Hein, comme ça, je ne remonte pas avec tout le bloc sur le bateau, c'est une folie. Hein. L'effort qu'il faut, surtout si vous êtes sur un bateau et d'un seul coup il y a un arrachement avec le coup de roulis, c'est inimaginable. Ça fait un coup à déclencher avec son décompression instantanément. Donc, si vous sentez un petit peu fatigué ou autre chose, vous arrivez, ben, vous vous laissez flotter 5 ou 10 minutes en surface. Si vous avez l'occasion de retirer votre bloc parce qu'on peut vous le hisser, ben, vous le retirez, vous attendez et vous montez avec le moins d'effort possible sur le bateau. D'accord, donc vous devez adapter votre vitesse de remontée par rapport à ça, et faites attention, parce que ceux et les charlots qui vous préconisent du 10 mètres minute à partir de 200 mètres de fond, déjà n'ont jamais plongé à 200 mètres de fond. Hein. Je peux vous dire qu'au fond, il faut s'arrêter. Et puis quand on est assez profond, si vous êtes à 150-120, il faut y aller pour remonter. Hein. C'est long. Quand vous remontez, vous arrivez à 100 mètres, vous dites, vous avez l'impression d'arriver en zone connue. Vous avez l'impression d'arriver dans une zone connue, quoi. Sympa, quoi. C'est sympa ici, quoi. Comment ça va être sympa. C'est long, c'est vachement long à remonter. Hein.
T'as une notion de déjà-vu.
À ce moment-là, le VPM qui propose des remontées hyper lentes, c'est 100 mètres par minute, et il commence les paliers quand on calcule ça, je sais pas, à 80 mètres.
Oui, mais dès qu'ils rentrent, parce qu'ils ont intérêt, parce que plus on remonte lentement, et moins on déclenche dans les efforts des microbulles. Donc dès qu'ils rentrent dans leur palier à mi-profondeur ou autre chose, ils recommandent d'aller doucement. Mais leur vitesse de remontée, pour moi, est trop lente, parce que plus tu passes du temps à remonter, plus tu satures tes tissus longs, plus tu satures tes tissus longs, plus tu vas le payer en sortant. Et les tissus longs, tu les payes en benne.
C'est 80 mètres.
Voilà. Donc, c'est inutile.
Donc il est plutôt pour un mélange VPN Bulman pour arriver au
sens plutôt. Actuellement, tout ça c'est plus ou moins expérimental. Hein. C'est-à-dire que quand j'ai testé moi le RGBM du 645, personne n'avait dépassé 110 avec, hein, et ils avaient juste envoyé un cochon à 120 mètres. Mais le problème, c'est le problème des bêtes. Ça. Déjà, la différence entre les symptômes et puis les signes et symptômes. Le cochon, il n'est pas capable de saisir ce qu'il ressent. Et puis ensuite, le problème d'un benz, c'est que vous ne voyez absolument pas un benz, vous avez beau faire toutes les radios que vous voyez, c'est invisible. C'est-à-dire que le benz, on ne peut le voir que 15 jours ou 3 semaines après, par l'impact qu'il y a eu au niveau de l'os, mais immédiatement, on ne le voit pas. Non, pas par une nécrose, il y a quand même un impact, c'est pas une nécrose.
Il y a des tissus qui sont un peu animés,
et donc on le repère qu'en moyenne, il faut le mettre 3 semaines de délai pour pouvoir voir l'impact d'un BENS au niveau d'une radio. Ouais. Donc quand vous prenez comme ça. Et puis souvent, faites attention, hein, les gars qui développent RGBM et tous ces gars, c'est pas des plongeurs. Hein. Le gars qui développe RGBM, c'est des informaticiens. Bon, par contre, Vinke, si c'est un plongeur. C'est un plongeur, et Naoui et tout ça. Mais le gars qui a développé Abby, c'est tous ces gars, c'est les informaticiens. Hein. C'est-à-dire qu'ils prennent la forme et ils la mettent en forme de façon jolie, sympa, etc. pour faire des belles courbes. D'accord. Donc, et ça, tout est programmable dessus. Donc c'est à vous de projeter un peu et de projeter votre expérience. Et mon expérience dit, vous n'avez aucune raison de traîner au fond. Hein. De 40... Attends. Si on remonte naturellement, on remonte vers 15 mètres, 17 mètres, 10 mètres, quelque chose. Donc vous êtes à 80 mètres, vous remontez tranquillement jusqu'à 40. À 40, vous commencez à ralentir doucement. Et quand vous êtes dans les paliers, de toute façon, vous allez doucement d'un palier à l'autre, et puis c'est tout, quoi. Donc vous devez programmer toutes vos vitesses de descente au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La descente, et après, il y a les algorithmes. Alors, il y a les coefficients A et B qu'il y a chez... Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'ils les ont supprimés sur cette version-là? Bon, il y a les demi-périodes. Si vous regardez, là vous avez, ceux qui ont mis, là vous avez les demi-périodes. Est-ce que vous avez algorithme, vous avez des Gajani-Watsal.
Et là, vous avez sur les, le nitrogène, l'azote, l'hélium, l'argon et le néon. Là, vous pourrez aussi vous m'abuser à tout changer.
C'est la version du Fontmet, je comprends pas.
Ça, non ?
Non, ça ne sert à rien. Mais ça, c'est intéressant. Quand on fait des décompressions, par exemple, si tu fais des décompressions avec des gaz qui ne sont pas dedans, eh ben, tu te souviens comment on calculait les paliers, les demi-paliers, c'était calculé par la loi de Gram. Donc, tu prends l'inverse de la racine carrée de la céramique, ça te donne un coefficient par rapport à l'azote, tu prends ton compartiment et tu le multiplies, et ça te redonne l'autre, et tu rentres comme ça tout le gaz qui t'intéresse.
Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives à ce niveau, tu demandes aux initiales?
Tout à l'heure, je m'en suis servi. Avant de venir, je me suis dit, tiens, on va rien faire.
Ce qui est bien, c'est qu'au départ, maintenant c'est en vente libre, mais au départ, lorsque il y a une dizaine d'années, lorsque les logiciels étaient vendus, et ben, il fallait remplir un paquet de. Un contrat, dire qu'on était diplômé, etc., valable, etc. Il fallait renvoyer tout le contrat aux États-Unis, et c'est seulement contre ça qu'on avait un logiciel en contrepartie. À l'époque, c'était ça. Et, mais c'était la même démarche, c'est-à-dire que ceux qui voulaient les tables Doris, eh ben, ils s'engageaient avec des décharges de responsabilité à ne pas les publier, ni rien. Voilà. Et ceux qui achetaient des tables professionnelles, eh ben, ils payaient et puis ils s'engageaient pareil. Donc c'était une démarche. Alors maintenant, c'est facile, on a tout par Internet, hein. Mais ça date de cette époque-là.
C'est
ici, là, ce soir, non, mais...
Moi j'en ai un à la maison.
Moi j'en ai un, moi oui. D'accord. Donc alors j'en suis à contrôle. Donc on a vu les 2020. Alors les J facteurs, les coefficients A et B, il ne faut pas jouer. Hein. Les coefficients B, c'est pour des calculs de pente par rapport à des décompressions. C'est vraiment rentrer ce qu'on appellerait un peu les M-values. Quoi. Faut laisser. Et après vous avez les algorithmes. Et les algorithmes, vous en avez trois à choisir. Alors l'ABIS 150. L'ABIS 150, c'est quoi? Eh ben, c'est tout bête. Ils ont pris l'algorithme norme de base de Bulman et ils ont dit on sature à la vitesse 100 et on désature à la vitesse 150. Voilà. Et ils vous disent oh, c'est ce qu'on recommande, etc. Pour la plongée trimix parce qu'on vous dit que c'est ce qu'il y a de mieux. Les gars qui ne plongent même pas.
Il n'y a rien de dispo. Les coefficients A et B, on a l'ABIS 150. En mode ABIS 150.
Ils ne sont pas ouverts. On va céder par autre chose.
Ah, d'accord.
Et donc alors, là, l'ABIS 150, j'ai fait pas mal de plongées avec, et on en ressort beaucoup plus fatigué. Donc au bout d'un certain temps, je me suis dit, ça va pas, les paliers sont trop longs, on se sent pas bien dans son corps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à tester les 120, et j'ai marqué, non, c'est pas terrible et tout. Et puis, ben, c'était très bien. Et après, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai les copains qui étaient avec moi, je les ai fait plonger au 120, et après, j'ai fait que des cours en faisant plonger les gens au 120. Voilà. Et après, j'ai modifié un peu les vitesses de remontée. Mais 150 par expérience, vous allez sortir fatigué de votre plongée. C'est-à-dire qu'il vous met trop de temps de décompression et on fatigue plus à la décompression. On fatigue plus que la réalité à la décompression. Autrement, il y a le 120. Le 120, il correspond à... c'est le Bulman Z-16. D'accord ? Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'au départ, la version Bulman, c'était, on va dire, la 100. C'était la version 100, c'était le ZH12, ou ZH8. Et puis, à un moment donné, il restait toujours des accidents de façon imméritée, de plus en plus par-ci. Et Bulman, il a dit, Arzo, j'ai trouvé, on va considérer qu'on désature à 120% de la vitesse de saturation. Alors, d'un point de vue physique, c'est faux. D'un point de vue physiologique, c'est tout à fait possible et tout à fait explicable. Les dernières études tendraient à penser qu'on se situerait vers 18% à peu près. Donc l'approche psychométrique et expérimentale de Bulman à ce niveau-là n'était pas trop mauvaise. Hein. Pourquoi? Eh ben, parce que le corps, ce n'est pas que de la physique, et aussi en physiologie,
toutes sortes d'éléments qui viennent freiner quelque part la désaturation. Et en utilisant la vis 120, c'est souvent quelque chose qui est pas mal. Quand vous utilisez la vis 100, là vous êtes beaucoup plus court, on fera des exercices. Et après il y a du RGBM. Mais le RGBM que j'ai moi, c'est une version expérimentale en anglais, où depuis elle a été modifiée. Je ne veux pas de version ça. Et c'est vraiment des trucs expérimentaux qui venaient juste de sortir et qu'on m'a expédié puis que j'ai été testé. Quoi. Parce que je voulais le voir. Il y a des cas que je n'aurais pas testé. Hein. Parce que là, je voulais voir ce que ça donne. D'accord? Bon, alors, on en est au niveau des défauts, donc pas des défauts, c'est comment ils ont fait ça en français, là-haut? Les paramètres. Donc, alors, l'altitude, vous avez les différents éléments d'algorithme, votre vitesse de descente et de montée, la décompression, et les limites que vous fixez. À côté, il y a les outils. Donc, vous pouvez utiliser le petit logiciel pour calculer les mélanges gazeux, qui est pas mal, hein. J'ai même une très vieille version où là, il y a par pression partielle, par poids moléculaire, et j'avais une troisième version qui était par... Alors, je ne sais plus par quoi. Ouais, je la retrouve, d'ailleurs. Tout ça, et les volumes des conversions, je ne les utilise pas. Et voilà. Après, on peut ouvrir. Alors, là, ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment on ouvre et comment on fait une plongée. D'accord ? Première chose, comment on fait ? Je crois qu'on se met sur la petite, ouvrir une plongée. Vous voyez ce petit truc ouvrir là ?
Oui, oui, ouvrir un fichier.
Non, ben, c'est pas par là. Donc vous
annulez.
Juste à côté là. On se met là et on ouvre. Voilà. Donc vous mettez juste à côté sur la gauche. Pour regarder, pour être bien en mètre. Si vous n'êtes pas en mètre, vous vous mettez sur barre et vous appuyez sur barre. Forfait. Ouais, ouais. Et là, normalement, je vais vous mettre en métrique.
Oui, il ne faut pas se mettre sur PSI.
Il faut se mettre sur le bar et pas PSI.
Bah oui, c'est PSI, je ne peux pas lui dire. 14,5.
Ouvre et voilà.
De tête les calculs.
Non, vas-y.
Voilà. Donc là, vous êtes... Alors là, il vous dit de rentrer l'altitude. Donc l'altitude, c'est pas la peine. Il vous demande la vitesse de descente initiale. Bah là, on va mettre ça à... Vous mettez, je ne sais pas, 30 mètres minutes, ça n'a pas d'importance. La température de l'eau, tout ça, vous laissez tomber. Vous laissez tomber, bon, 6 water, vous pouvez mettre 6 water si vous voulez, quoi. Donc, on va supposer, je ne sais pas moi, on va supposer, par exemple, là, on est sur l'air, donc on va supposer qu'on part à l'air. Là, c'est pour vous dire comment on part en configuration de la surface. Vous pouvez rentrer un trémix, vous pouvez rentrer ce que vous voulez. D'accord ? Qu'est-ce qu'on fait ? Juste, on va faire à l'air, simplement. Et là, vous mettez ensuite OK. D'accord ? Et il va vous ouvrir un champ complet sur lequel on va dessiner la plongée. Là, vous avez un petit curseur qui se balade, et le curseur, vous allez le mettre n'importe où. On va faire une plongée, on va dire, on va descendre à 70 mètres. Vous appuyez, non, vous le mettez, ça n'a pas d'importance, parce que dès que vous appuyez, lui va vous dire l'endroit où vous étiez, mais ensuite, vous allez pouvoir modifier tout ce qu'il y a dedans. Donc, on va dire, on va à 70 mètres, d'accord. La vitesse de descente, je vais la remettre, parce que je n'ai pas réglé à 30 mètres minutes. Alors, il vous indique le temps, combien de temps vous voulez rester à 70 mètres. C'est-à-dire que si je faisais qu'une plongée à l'air de 70 mètres, tu mettrais un quart d'heure, par exemple, je mettrais un quart d'heure et après on verrait pour la remonter. Là, je suppose que je vais juste changer de gaz. Donc, je mets 0. Je ne vais pas perdre de temps à changer de gaz. Température de l'eau, ça n'a pas d'importance. Je suis toujours à l'air et je vais mettre OK. Vous avez fait ça ?
Non,
personne n'a
fait ça.
Personne
n'a
fait ça.
Tu es où ? Je suis sur outil, là, pour le moment.
Tu es sur outil ? Pourquoi tu es sur outil ?
Non, mais ce qui est intéressant après, effectivement, c'est la question que pose Jean-Paul, c'est la découpe. Qu'est-ce que tu
fais ? Voilà, tu en mets.
On a des exemples, c'est 100%, tu prends 50.
Non, mais ça, c'est un truc perso.
Non, mais bien sûr. Mais c'est intéressant de savoir les trucs à éviter. Quoi.
Il va se mettre
par exemple, le Nifrox 81, c'est à proscrit. Ça, je sais.
Voilà. Au moins, ça va un peu pour
être. Non, c'est proscrit. Mais ça fait faire des bases, c'est ça qui est intéressant.
Tu te mets la tête, mais tu fais ton curseur, la tête, la
porte. Oui.
Voilà, il a trouvé une fois. Deux fois, là. Voilà, là, t'as
quand même
70 mètres.
Oui, on va descendre.
T'as qu'à mettre 25 minutes, tu viens descendre. Le temps à profondeur, tout est bon. Et là, tu mets OK. Donc, vous faites OK.
Après, tu vas. Ok. Danger, vous avez dépassé, oui, je vous ai été un peu trop profond. Ouais. Ça, je m'en fous, ça. D'accord. Donc là, ça me fait déjà mon profil de plongée. Je descends.
Donc tu te positionnes, en fait, sur le...
La profondeur, d'accord.
Vitesse de descente. Ça roule,
vitesse de descente. Vitesse de descente, t'as quand même zéro, là, en temps. On va pas s'arrêter à 102 mètres, on ne fait que passer.
Ah, et ça, c'est
4. Ça, c'est 4. Ça, c'est 4.
Voilà. Tout ça, c'est bon, c'est bien à l'air, tout ça, ok.
Ok.
Ok. Quoi ? Ah, t'es limité à 30 mètres, c'est la version de démonstration.
Ouais.
Les autres ne l'ont pas. Ouais. Bah, c'est pas grave, tu te mets à 20 mètres, ça n'a pas d'importance. C'est juste pour le principe, pour voir. Tape ou 15 mètres.
Non, c'est la version de niveau ?
Non, c'est-à-dire que tant que tu n'as pas payé les droits, t'es limité à 30 mètres.
C'est bien.
Ah, c'est dangereux, hein.
Et alors, comment ils voient ce 110 mètres, les autres ?
Eh ben, parce qu'ils ont des...
Payer les droits.
Bon. D'accord. Ensuite, on va se mettre... On va se mettre sur le point à 70 mètres. Ouais. D'accord ? Vous mettez le curseur sur le point à 70 mètres et on appuie. Donc, il me dit, la profondeur actuelle, c'est 70 mètres. Je descends à 30 mètres minutes, c'est ce que j'ai mis. Mon temps de descente, ça a été 2 minutes 41. Je mets aucun temps à 70 mètres. Et là, par contre, je vais mettre, vous avez complètement sur la droite, modifié. Vous voyez tout modifié. Vous appuyez sur modifier. Ah non, je me suis trompé. Fermé. Et revenez sur le truc. Là, vous avez des choses qui sont très importantes. C'est alors, move, ça veut dire aller d'un point à un autre. Et vous avez inséré un waypoint à un autre. C'est-à-dire qu'on va faire une plongée en mettant des waypoints au fur et à mesure. Et c'est l'ordinateur qui va calculer le profil de plongée en fonction des waypoints. D'accord ? Donc on va insérer un point après.
Déjà long, quoi.
Bon, le point que j'insère après, c'est toujours 70 mètres. C'est-à-dire que je suis descendu à 70 mètres, là, j'ai mon air, je vais passer sur du trimix.
Là, vous êtes en plus.
D'accord ? Donc je vais sur mon cursus, bon, hop, trimix. On va à quelle profondeur après ? On va dire qu'on n'a qu'un seul trimix. On n'a pas plusieurs trimix de descente. À quelle profondeur vous voulez aller ?
100 mètres.
On va dire 100 mètres. Voilà. 100 mètres, c'est facile.
Mais tu mets un trimix ou quoi ?
Bah, qu'est-ce que vous allez mettre comme trimix à 100 mètres ?
Non, mais t'es négatif.
Je sais.
Qu'est-ce que vous allez mettre comme trimix à 100 mètres ?
Bah, on va mettre. Il faut calculer la profondeur équivalent narcotique déjà.
Bon, d'abord, on calcule l'oxygène. Chacun a quelqu'un une calculatrice ?
Oui. Elle est où ? Ma mallette, elle est où ?
Elle est là, c'est ça, non ?
La pression là-bas.
Eh bien, on va faire un, si on prend un 4 de PPO2...
Oui, ou un 5.
Un 5, on prend ?
On va faire 1,5
divisé par 11.
C'est 13,6. Donc, on va faire du 13%.
Ensuite, on prend la profondeur qui est la petite.
50.
50 mètres ?
Non, 50 en ailleurs. 50.
Bon,
là, on va voir. Donc, non, normalement, vous devez choisir votre profondeur équivalent narcotique, c'est-à-dire comment je veux être narcosé au fond compte tenu de la plongée.
Je veux pas
être narcosé
30 mètres raisonnable.
Ouais, c'est 40
mètres. 40 mètres, au moins. 40
mètres. On va dire qu'on se fait une plongée cool en Méditerranée à 100 mètres.
37%.
Qu'est-ce que vous voulez ?
40 mètres, ça fait 25 qui a été.
40 mètres, 50 mètres ?
50 mètres, alors. Méditerranée, on l'a vu, 50 mètres.
40
mètres ? Bon, on met 40 mètres.
Donc
5 bars multipliés par 0,79, ça vous fait 3,95 divisé par 11.
36%.
Ça nous fait du 36%. Donc on a 36% d'azote. Voilà, et l'hélium, c'est la sauce, ça complète. Voilà, et donc ça nous fait du 51%. On est d'accord ? Voilà, et là je mets OK. Attention, j'ai dépassé. Bon. Ça, bon, c'est une sécurité parce que je... Qu'est-ce que je fais maintenant ? Je me remets à nouveau sur mon point. Donc là, regardez bien que vous êtes bien sur votre point trimix. Et là, on va mettre insérer un waypoint après.
Pardon ?
Insérer un waypoint après. D'accord ?
Ouais, ça marche, moi.
Ça, c'est un très vieux portable que j'aime, mais il marche et puis il a toujours un programme avec les droits payés dessus. Donc,
c'est les droits de la
Est-ce que tu as payé autant de fois de droits que tu vas te payer ?
Non. C'est-à-dire que normalement, avec tes droits, tu as droit à un ordinateur de table et un ordinateur portable. Tu as droit à deux codes.
Et comment est-ce que le CD peut reconnaître que...
Non, rien, c'est... Non, c'est-à-dire que tu le mets sur ton ordinateur portable, il génère, en fin de compte, quand tu l'inscris, il génère un code qui est lié à des éléments et des trous sur le disque dur.
Voilà.
Et il te met un truc qui est long comme ça, avec des chiffres et des lettres.
Ouais.
Et après, tu dois répondre, donc tu envoies par fax ce code-là à Mike Busitilli en France, qu'il rentre aux États-Unis. Aux États-Unis, il renvoie notre code que tu rentres dans ton ordinateur.
Et quand tu craches ton disque et ton PC, etc., t'as intérêt à...
Eh ben non, bah tu redemandes. Non, 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 il n'est plus valable. C'est-à-dire que si tu modifies, les emplacements libres sur le disque dur, entre-temps, ne sont plus les mêmes et plus rien n'est valable. Hein. Dès que tu as utilisé ton portable, après, ça ne va plus. Donc on est d'accord, donc, alors on va dire qu'on va à 100 mètres, puisqu'on voulait aller à 100 mètres. Alors souvent je fais 105 mètres. Pourquoi je fais 105 mètres comme plongée pédagogique? Non, parce que 105 mètres c'est pédagogique, c'est-à-dire que psychologiquement, on a dépassé les 100 mètres, on est dans de la plongée à 3 chiffres. Et dans la pratique, c'est une plongée à 100 mètres, c'est pas très compliqué. Hein? Donc ça permet d'avoir la barrière psychologique des 100 mètres qui est dépassée, sans avoir véritablement une plongée à plus de 100 mètres en complexité. Donc, d'un point de vue pédagogique, c'est assez sympa de les plonger à 105. Bon, on va mettre 100.
Non, on met 105.
Bah non,
ah si, on met 105. 105,
c'est un pédagogique.
105, attends. Oh.
Supprime, c'est où? Supprime, c'est là. 105. Et là, on va dire qu'on reste combien de temps au fond?
C'est la version. Oh, 10 minutes.
Combien de temps vous voulez rester?
5 minutes.
10 minutes.
On va mettre 10 minutes. Là, c'est le temps qu'on reste au fond, hein, sans le temps de descente. Hein.
Ouais,
ouais. D'accord. Ouais,
je mets OK.
On descend à quelle vitesse toujours?
Bah, tu avais choisi ta vitesse au départ.
Oui, 30.
Hein, il veut sûrement une vitesse de plus ou moins, moins grand.
Il a recalculé la vitesse de descente qui s'est inclinée là.
Bon, donc là, vous arrivez à un profil de plongée où vous êtes descendu jusqu'à 70 mètres à l'air, vous avez changé de détendeur, vous êtes passé au trimix et vous êtes resté 10 minutes. Quand je regarde à peu près en gros, j'en suis, ça, c'est ma courbe de saturation.
D'accord.
C'est-à-dire que celui-là, il est capable, c'est joli, de faire en trois dimensions la saturation de tous les tissus et tout ça. Mais j'utilise jamais, parce que c'est gadget. Mais ça peut être utile en pédagogie, quand vous enseignez à des niveaux 2-3, de voir un peu sur chaque tissu comment ça évolue. Hein. D'accord, on est là. Qu'est-ce qu'on fait là? Bon, on va dire qu'on va terminer la plongée. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est insérer un point après. Vous êtes d'accord? Et là, je suis à 105 mètres. Et là, je vais remonter à 70 mètres. Que je considère que
on
je
va
fais.
Prendre la bouteille d'air.
Oui.
Et là, on va remonter. On va remonter à combien là?
70 mètres. Et je vais
la
mettre de l'air.
On reste à cette vitesse-là?
Non, non, c'est pas grave. Il va le faire automatiquement.
Ah, d'accord.
Voilà, alors là j'ai fait une erreur, c'est que je lui ai laissé 10 minutes. Donc là je dois aller dans modifier. Je vais mettre à 0. Ok. 13, 36, 10,
10.
Voilà, tu dois arriver à ça. C'est-à-dire que tu es descendu à l'air, tu as changé de l'air en passant. Alors ce qui est important, c'est que quand vous descendez, ne jamais attendre le dernier moment pour faire un changement. Si vous faites des changements d'air ou de gaz profonds, c'est-à-dire que vous descendez, quand vous êtes à 30-40 mètres, vous prenez votre gaz, vous commencez à tirer deux coups pour voir si ça fonctionne, et vous lavez l'autre et vous préparez. Quand vous êtes aux 70 mètres, vous passez, et ça a déjà été testé. J'ai eu un copain qui est arrivé, crac, à 80 mètres, comme Didier, hop, on fait le changement d'air, et là, tout a explosé, rien ne marchait plus. Et là, c'est le stress. Donc, il faut toujours anticiper, il faut anticiper les mouvements, il faut anticiper l'action. Je suis en train de descendre, je sais que 20 mètres plus bas, je vais changer de détendeur, je teste un coup de détendeur que je vais utiliser, et je me prépare prêt à intervenir pour le changement. Bah, il faut toujours anticiper les mouvements, et ne pas attendre d'être arrivé à 70 mètres, c'est la limite, quoi. Hein. Et là, je fais ma plongée, je remonte. Après, j'ai plusieurs possibilités. Donc, voilà mon idée. Là, je suis parti, j'ai pris de l'air comme gaz transit, mais vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez prendre du nitrox, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
On va commencer la déco.
Oui. Oui. Ben, vous faites la déco, là, on est sur l'air. Qu'est-ce que vous amenez? Vous amenez... Ben, vous inventez. Ben, qu'est-ce que vous avez amené comme bloc? Qu'est-ce que vous voulez faire comme déco?
Alors comment est-ce qu'on a fait les dessins? On va prendre un produit et on va mettre du nitrox dedans.
C'est pas fédéral. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, tu peux mettre 60, fais ce que tu veux. Ça,
pas là, on peut remonter un petit peu avec de l'air et après prendre le produit.
C'est pas très grave. Quand tu remontes de très profond, ce qui est important, c'est
le coefficient narcotique. C'est-à-dire que si tu remontes de 130-40 mètres et tu prends de l'air à 80 mètres, c'est vrai que ça fait 10 claques derrière les oreilles. Mais tu remontes, tu es sur ta ligne de vie et tu es comme ça. Tu parles, le temps de prendre ça, il faut une vingtaine de secondes pour que ça commence les effets à arriver. Et puis, clac, et puis c'est fin de mort, et puis tu vas remonter, c'est pas ça qui va te... voilà. À partir du moment où t'as pas à faire d'effort comme un spéléo qui, lui, sera à 70 mètres et à faire du mouvement, c'est une folie. Quand t'es en pleine remontée, prends une petite claque derrière les oreilles, c'est pas grave. Hein.
C'est bon, même.
C'est bon.
Après, c'est un juste choix, c'est-à-dire qu'on doit utiliser de l'azote, mais attention à l'azote. L'azote, il a une certaine vitesse de saturation. Donc, alors, l'intérêt d'aller le plus profond possible avec l'air, c'est que quand vous descendez un fond avec l'air, vous allez vous saturer en azote. D'accord ? Plus tard, vous prenez votre trimix, si vous faites un changement à 80 mètres, plac, je passe sur trimix. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, je vais avoir beaucoup moins d'azote, donc je vais commencer déjà à désaturer mon azote, et je sature mon hélium. Et dès que je pars, par exemple, à 110 mètres, je repars sur l'air, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je commence à évacuer complètement l'hélium que j'ai. Mais je commence aussi de côté à continuer à me charger sur l'azote. Donc, il faut trouver le juste milieu. Sachant que de toute façon, si la plongée est très longue, il va falloir plus de temps pour décompresser l'azote que pour décompresser l'hélium.
Donc on a plus d'intérêt de remonter plus haut avec le prémix que...
Non. Non, moi j'aime bien évacuer complètement l'hélium assez rapidement parce que ça te dégage un gaz du corps déjà. Et tu arrives en décompression et puis tu es en fin de plongée, tu n'es que les trains. Mais tout dépend du type de plongée. On a vu que si les plongées commencent à être très longues, des plongées qui vont durer plus de 2 heures dans leur globalité, à ce moment-là, c'est toujours plus intéressant d'avoir une décompression la plus longue possible avec de l'hélium, parce que l'hélium sort beaucoup plus vite que le corps. Donc tout dépend de la nature et du type de plongée que vous faites. Moi je sais que, bon, disons que j'aime bien faire des plongées une heure et demie, j'aime pas rester trop longtemps. Mais quand vous faites des plongées de plus de 2 heures, et ben là, faut utiliser l'hélium dans la décompression, parce que si vous commencez trop tôt avec de l'azote, vous allez vous charger en azote, ça va être beaucoup plus long avec de l'azote que l'hélium. Alors la grande peur, on en revient à toute cette grande peur de la contre-diffusion isobarique, etc., liée à l'accident de l'oreille interne. Hein. Qui a été à la conférence médicale ? Moi j'y étais, mais qui était ? On s'est vu là-bas. C'était très 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 intéressant. C'était très très intéressant. C'était d'un très bon niveau, organisé par la commission médicale Île-de-France. Hein. Il y avait le Péchon qui a fait un speech physique. Après, il y avait Méliette qui était là. Après, il y avait un ORL, mais hyper pointu en physiologie, qui a fait une description complète de l'oreille, du fonctionnement des canaux, tout ça. C'était vachement bien. Et il y a Méliette qui est intervenue en faisant un petit peu tous les... le recul de l'accident de décompression, du traitement de l'accident de décompression qu'ils ont de Toulon au niveau de l'oreille interne. Voilà. Et dans plus de 80% des cas, c'est un passage par le foramen ovale ou ailleurs de bulles qui vont directement. Parce que quand ça remonte, et bien au niveau des carotides, ça remonte, les deux se retrouvent au niveau du cerveau, et la première sortie en direct, ça part directement, il y a une grosse arrivée sanguine qui part directement sur l'oreille interne. Et donc s'il y a des bulles qui remontent, qui passent dans la petite circulation, automatiquement elles sont projetées au niveau du cerveau.
Sur le retour d'expérience, c'était quoi ? C'était que des accidents de l'oreille et aucun accident neurologique ?
Non, il parlait que de l'accident de l'oreille interne. C'était un sujet que là-dessus. Voilà. Parce qu'on entend tellement, donc c'est un accident qui se développe de plus en plus actuellement. Ouais. C'est intéressant, c'est que le Péchon, il a fait un historique de ce truc-là. Et sur... depuis le 19e siècle jusqu'il y a 20 ans, il n'y a jamais eu un cas qui a été rapporté, quelle que soit la profondeur. C'est vrai que c'est amusant. Et les premiers cas qui ont été rapportés d'accidents d'oreille interne, ça a été des problèmes de décompression sur des profondeurs de 300 mètres, 200 mètres, etc., par les premiers gars à saturation. Hein, les premières plongées à 300 mètres, 200 mètres, il y avait presque 1 sur 2 qui se tapait un accident. Hein. Ils n'arrivaient pas trop à maîtriser tout ça. Et maintenant, ça se développe au niveau de la plongée bouteille loisir. Il y en a de plus en plus, et encore, c'est ce que grand Jean dit, avec les ordinateurs portables. Parce que les gars, ils ont tendance à faire des plongées comme ça. Quand on fait des plongées comme ça et qu'on a un foramen, c'est parfait de compresser, décompresser les yeux. Mais ça, c'est simplement pour vous dire qu'il y a toute une littérature qui tend à dire que si on change de gaz, ça crée des accidents de décompression d'oreille interne par contre-diffusion isobarique. Alors que d'un point de vue médical, plus de 80%, les autres cas, ils ne savent pas très bien, on n'arrive pas vraiment à définir, mais plus de 80%, ça vient d'un problème de passage d'une embolie gazeuse qui passe dans la petite circulation. Voilà. Si ça n'a rien à voir avec la contre-diffusion, je m'arrête.
Et la contre-diffusion, j'aurais déjà dit que c'est plutôt au palier quand on passe de l'azote à l'hélium, parce qu'on
Et le principe, c'est que plus tu remontes, plus ton gaz va être lourd, plus tu descends, plus le gaz va être léger. D'accord ?
Donc on en est là, donc après on va mettre, et ben là vous allez, je sais pas, on va prendre le plus simple. Donc si c'est moi, et ben je remonte entièrement à l'air et je prends de l'oxygène pur avec mon bateau. Donc là je mets insérer un point après. C'est un exemple, hein. Ben ou non, on va faire plutôt comme vous. Vous, vous allez, on va dire on va prendre un nitrox, d'accord? On prend un nitrox, ça nitrox combien?
Bah ben on va remonter un petit peu l'air quand même.
Oui, oui, parce qu'il arrive à être automatiquement. Hein. Okay. Vous voulez prendre un litre en combien?
Un 40.
Donc une importance.
Ouais,
40. Bon, le litre 40, on peut l'utiliser à partir de 30 mètres. Voilà. D'accord? Donc on prend un litre. Là, je mets nitrox 40. Voilà. Et normalement, c'est à 30 mètres. Hein. Et le temps, zéro. D'accord? Je remonte. Là, j'insère juste mes waypoints. Hein. D'accord? Et je vais terminer par de l'oxygène pur. Maintenant, je vais mettre insérer un point après. Et je vais lui mettre 100% d'oxygène. Et l'oxygène, je peux le prendre à 6 mètres. Et là, dans toute la remontée, je lui ai simplement introduit les changements de gaz que je lui demande sans aucune notion de temps. D'accord? C'est lui qui va me calculer tous les temps au niveau de la décompression. Je lui indique simplement les gaz que je vais prendre en fonction des profondeurs. Donc là, je lui dis oxygène pur à 6 mètres. Voilà. Maintenant, ce que je fais, c'est que vous voyez une petite flèche rouge dans un rond bleu ou une petite flèche grise dans un rond moins gris. Et là, vous appuyez dessus.
C'est là où il calcule, en fait.
Voilà. Et là, il m'a indiqué toute ma décompression en allant jusqu'à ras de la surface. Il a calculé tous les paliers. Donc, ce que je fais d'abord, je vais d'abord voir dans les paramètres. D'accord? Parce que les paramètres, je vais voir ce que je vais indiquer comme algorithme. L'algorithme, là, c'est un algorithme 120. Bon, c'est pas trop mal, l'algorithme 120. D'accord. Je laisse comme ça. On verra après. Par contre, il m'a mis des dipstop en rouge. Là, c'est dans... Dans Tools. Tools Deep Stop, je l'ai supprimé, Deep Stop. Voilà. Là, là, voilà le profil de décompression type.
Et
voilà, alors là, là, je suis descendu à l'air à 70. À 70 mètres, j'ai pris mon trimix. J'ai fait ma plongée. Je suis remonté à 70 mètres. À 70 mètres, j'ai pris de l'air. Je suis remonté jusqu'à 30 mètres. À 30 mètres, j'ai pris mon nitrox 40. J'ai fait les décompressions qu'il fallait, et normalement, je dois être à l'oxygène pur à la fin. Ce que je fais maintenant, vous regardez Deco Table.
Pourquoi il démarre le palier à 30 mètres? C'est parce que...
Non, parce que c'est normal. C'est normal, une plongée à 100 mètres, tu descends facilement. Normalement, j'en rajoute encore. Donc là, c'est la partie brute déjà que je... comme ça. Vous regardez dans Deco Table, vous l'avez, ça? En haut, là.
Table de décompression. Une flèche.
Ouais, tu l'as ?
Non, je suis en train de revenir parce que j'ai pas le, moi, le changement à l'air à 70 mètres, je l'avais pas.
Bon, c'est pas grave. Ah oui, non, si tu fais tout à l'hélium, tu vas le payer cher.
Yes.
Ah, oui, c'est. Alors, ce qui est intéressant au départ aussi, c'est de projeter tes idées. C'est-à-dire, je fais, qu'est-ce qui se passe si eh ben, je passe pas à l'air, mais je continue à l'hélium et que je prends seulement mon nitrox à 40. Et là, vous voyez l'influence et les temps directement, comment ça agit. C'est à vous, au départ, vous devez bien projeter vos idées. C'est-à-dire qu'au départ, on passe pas mal de temps à réfléchir, à se poser des questions et à projeter les questions. D'accord? Et après, avec l'expérience, ça devient automatique, on fait sa plongée, on n'y fait plus attention. Mais au départ, on a plein d'interrogations et il faut passer du temps dessus. Alors, il ne faut pas être ce qu'ils appellent maintenant les techno-babies, les techniques plongeurs ou je ne sais pas quoi, c'est-à-dire des gars qui passent leur 100% de leur temps à faire de la décompression sur l'ordinateur et qui sont simplement des rêveurs et pas des praticiens. Des praticiens, enfin, des quantités. Hein. Des quantités, vous n'avez qu'à poser la question sur la net, et si je fais une plongée à 150 mètres et tout, il y a 20 mecs qui n'ont jamais plongé à 150 mètres qui vous donnent leur réponse. Hein? Mais...
Ça permet aussi d'anticiper une perte de gaz.
Bon, ça après, tous les problèmes, on les voit après. Là, on planifie déjà le début de la plongée avec ses propres idées. D'accord. Donc vous regardez Deco Table, vous appuyez dessus, il vous propose profil long ou profil court. D'accord. La différence entre profil long et profil court, c'est simplement la quantité d'informations qu'ils vont vous donner à chaque point. C'est-à-dire en suivant avec les OTU, avec tout ça. Moi, j'ai l'habitude, je prends profil court. Là, il vous demande le calcul des gaz, donc je lui mets sans aucune réserve. C'est moi qui fais mes réserves tout seul dans ma tête. Hein. Et il va me sortir un tableau. Et là, sur le tableau, vous vérifiez les éléments. Hein. Vérifiez les éléments, c'est-à-dire que, je suis parti de la surface. À 70 mètres, j'étais à l'air. À 70 mètres, je suis passé ensuite au trimix. J'étais à 105 mètres. En réalité, j'ai passé un temps total de 13 minutes et demie à 105 mètres et j'ai commencé à remonter. J'ai repris l'air à 70 mètres. Ensuite, j'ai repris le nitrox 40 à 30 mètres. Je suis remonté et à partir de 6 mètres, j'ai pris l'oxygène. D'accord ? Et là, je continue et je regarde un peu les paliers qu'il me donne. Ça, c'est du abyss. C'est pas ce que j'aurais fait, hein, mais c'est ce qu'il me donne. Il me donne 1 minute à 24, 2 minutes à 21, 2 minutes à 18, 4 à 15, 6 à 12, 9 à 6 et 30 minutes entre 6 et 3 mètres.
C'est court. 20 minutes, hein.
Non, c'est pas court, c'est bien.
30 minutes en 6.
Voilà. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il me fait les calculs de gaz. Combien j'ai utilisé de gaz ? Donc, j'ai utilisé 377 litres d'air. J'ai utilisé 2 mètres cubes 7 de mélange. J'ai utilisé 1 mètre cube 2, on va dire, de nitrox et 850 litres d'oxygène. Alors là, vous avez commencé, le principe, c'est vous commencez à faire votre calcul sur une feuille de papier. D'accord ? Sur une feuille de papier, vous calculez d'abord votre mélange, hein, et le profil de la plongée que vous pensez faire. Voilà. Après, vous commencez déjà à sortir quelque chose et vous dites, est-ce que c'est rationnel par rapport au volume de gaz et au bloc que je vais emporter ? C'est pas la peine que je prenne un 12 litres d'air pour utiliser 377 litres d'air. C'est pas terrible. Il faut essayer d'ajuster au mieux. Hein. Et puis là, je vois qu'il me faut 2 mètres cubes 7. En réalité, je vais vous dire, on passe à 2 mètres cubes 4 si on prend vers 80 mètres ou 90 mètres l'air. C'est-à-dire que ça se fait sur un 12 litres, la plongée là. Ça se fait avec une marge triple zéro, mais ça se fait.
Là, c'est sans marge, non ? C'est le calcul.
Non, c'est sans marge. Voilà. Et après, c'est une question d'expérience et c'est à vous de se connaître. Alors, ce que je dis, c'est la marge de 30% de la rajouter sur le fond, hein, de rajouter sur le volume fond. D'un point de vue pédagogique, dites de rajouter 30%. Les 30% ne servent à rien en cas d'incident. On a bien calculé que compte tenu le moindre incident à 100 mètres, les volumes de gaz consommés, il n'y a plus aucune calcul qui marche. La règle des 2 cinquièmes, tout est faux. Par contre, si vous rencontrez un peu de courant ainsi de suite, vous allez juste passer. Et là, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne sais pas, là, à Cherbourg, ils ont été faire le sous-marin à 80 mètres. Donc moi, j'avais fait avec eux, il y a, 2 ans, et puis j'avais dit, on va prendre 30% de marge, et puis on va faire que tel temps au fond. Les 30% de marge, ils ont été bouffés. Ils ont été bouffés, pourquoi ? Parce que, compte tenu du faible courant résiduel de toutes ces choses-là qu'il y a, les gars, ils ont tout bouffé là-dessus. D'autant plus que dès qu'il y a un petit peu de courant ou qu'il y a quelque chose, vous avez remarqué que les poumons répondent à l'effort, naturellement, et donc on consomme beaucoup plus de gaz quand on est avec du trimix que lorsqu'on est à l'air. À l'air, il n'est pas possible de consommer plus. Au trimix, on consomme. On a vite fait dérapé. Ça fait au départ, quand on plonge au trimix sur une plongée identique, c'est en moyenne 15% plus de consommation
pendant le stage.
Vous avez vu ça ? Mais après, c'est une question de contrôle de la respiration. Mais au départ, c'est toujours 10-15%
plus. Hein ?
Donc faites attention, prenez bien 30% quand vous êtes avec des élèves comme marge. Voilà. Et essayez même de rajouter, de diminuer un petit peu des temps et tout ça.
Et ça n'a rien à voir avec le stage, en fait.
Non,
il y a un autre truc, un autre élément que j'ai eu il n'y a pas longtemps, là.
30%
ou un tiers. Pas 30% de plus, c'est-à-dire que s'il te faut 3 mètres cubes, là il faut 2 mètres cubes 7, on va dire 3 mètres cubes,
les mecs qui plongent à l'air, plus. Ils sont habitués à plonger à l'air,
c'est-à-dire que je vais prendre un 4
mètres cubes de mélange. Quand ils descendent un peu profond, de tirer sur les
standards. Si,
c'est vrai, ça devient automatique, on sait qu'on va tirer. Et quand on passe au trimix et qu'on sait pas, on n'a pas cette expérience-là, mais en fait, déjà, le gaz venant très fluidement dans les poumons, et avec un moindre petit effort, mais on consomme deux fois plus. D'autant plus si on a un détendeur moderne, on va dire, qui a la possibilité d'être super donneurs, etc., eh bien, on arrive à des consommations à 1800.
Vous savez que la tendance en tech actuellement, c'est de durcir un peu les détendeurs et tout ça, de façon à éviter les pertes de gaz et puis de prendre un peu plus conscience de l'air que l'on respire, comme avant avec les vieux spiroïdes.
Eh
c'est vraiment ce qu'on respire.
Moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé, parce que j'avais un détendeur que j'ai acheté un aquanum, là, un truc super moderne, là. J'avais tout ouvert au maximum, mais j'avais même pas fait gaffe, en fait. Hein. Mmh. Je suis arrivé au fond, la deuxième plongée, j'ai consommé comme un malade. Alors il y a eu deux trucs qui font que j'ai consommé, parce que d'abord la ligne était très longue, elle n'était pas ce courant, on avait beaucoup de trucs. Moi je suis descendu derrière le moniteur, j'étais juste derrière lui, et Hakim était derrière moi. Le temps d'entendre les autres, j'avais des palmes dures, donc j'ai consommé en effort physique. Je suis arrivé au fond, j'ai attendu les autres, donc j'étais à la limite de l'essoufflement. Et voilà, c'était tous ces éléments-là qui ont fait que j'ai beaucoup consommé. Le lendemain, j'avais acheté des palmes des Quattro, donc je sais qu'elles sont moins dures pour la force. J'ai réglé mes détendeurs, je suis descendu normalement, je suis arrivé au fond, mais j'avais largement ce qu'il fallait. Enfin, j'étais bien, c'était beaucoup mieux.
Mais ça, faites attention, dès que vous avez commencé à enseigner le streaming, c'est le premier truc sur lequel on se plante. Hein. Donc prenez bien de la marge, hein, et puis avant de faire des plongées, vraiment limite. Parce que moi, j'étais étonné, hein, c'était que des instructeurs normands, donc ils sont pas mal à l'aise. Ils sont, disons, largement plus à l'aise que les Parisiens, sur l'eau. Hein. C'est les Parisiens. Et ils ont tous été limite. Hein. Et j'avais pris de la marge. Hein. Donc, faites gaffe. Donc là, c'est voilà ce qui était projeté. Donc là, vous posez la question. Quelle configuration je vais prendre? C'est pas terrible, hein. C'est pas optimisé ce truc-là. C'est pas terrible. Est-ce que vous avez compris un peu le principe? Ce qu'il faudrait là, c'est qu'on fasse une plongée je sais pas moi, on va dire une plongée à 80 mètres. Alors vous vous mettez par groupe de 3 et vous essayez de faire une plongée à 80 mètres, alors même en utilisant VPM ou autre chose, ça n'a pas d'importance. Hein. Vous vous remettez par 3 et vous dites 80 mètres, comment je vais m'équiper, et puis quel gaz je vais utiliser, et qu'est-ce que je vais faire comme profil de plongée.
Justement, au niveau des détendeurs, est-ce qu'il y a des choses à éviter absolument pour des plongées profondes? Est-ce qu'il y a des marques conseillées? Est-ce que...
N'importe quoi, c'est très bien. Tu prends un Mark II R190, ça marche impeccable à 120, 130 mètres. Donc ça ne sert à rien d'acheter un détendeur très cher. Avec de l'hélium, c'est tellement léger, il y a n'importe quel gaz qui passe. Ensuite, quand vous faites de la plongée profonde à l'air, l'important, si vous en faites, c'est d'avoir un truc qui est gros et de la purée qui passe. Ça, c'est important. Parce que... Alors, ce qu'il y a, c'est qu'un détendeur qui va être... si vous prenez un vieux spiroïde ou un truc comme ça, il va vous paraître dur dans les 30-40 premiers mètres. Moi, j'en ai un vieux Citec, je sais pas quoi. Oh là là, j'avais ça. Oh, j'étais comme ça en surface, putain, je vais jamais réussir à descendre. À partir de 40, il a commencé à être plus souple, et puis à 120 mètres, il était vachement souple. Donc, faut pas trop s'affoler. L'important, c'est d'avoir du gros diamètre pour passer de la purée. Voilà. Donc, un piston primaire, c'est très bien pour de la plongée profonde à l'air. Du gros diamètre. Hein? Et si c'est trop fin, trop sophistiqué, vous n'arrivez pas, avec la densité du gaz de l'air, vous n'arriverez pas à passer le volume qu'il vous faut.
Non, parce qu'il y a des marques qui font de la pub, bon, tout le monde les connaît. Enfin, je veux dire, Apex, par exemple, fait une publicité.
Non, mais de toute façon, avec du clinique, tout marche. Tu prends n'importe quelle merde, parce que de toute façon, c'est léger, ça passe. Donc, tu prends un détendeur le moins cher possible, il est très bien. L'important, le principe en tech, c'est qu'on dit, en tech, ce qui marche, c'est ce qui marche. Donc, il faut prendre des choses éprouvées qui sont fiables, solides et stables. Parce que des détendeurs instables, c'est dangereux aussi. Hein. Des détendeurs instables, c'est-à-dire que dont le débit il varie en fonction de la profondeur, de l'effort et tout, ça peut se mettre en débit continu comme à rien. Donc, ce qui est souvent utilisé par les gars, c'est quoi? Eh bien, on trouve pas mal de Mark 20, on trouve des Poseidon, on trouve, c'est vrai, de l'Apex, ça marche. Mais dans le doute, t'as qu'à prendre que des R90, c'est très bien, ça coûte 1000 balles ou 800 francs, c'est pas impeccable.
J'ai un Poseidon.
Moi, j'en ai deux, c'est...
C'est bien parce qu'on peut les tourner.
Ça, c'est bien, c'est que.
C'est bien, voilà. C'est bien
pour ils sont à droite ou à gauche. Voilà.
Mais le truc qui m'a dit, c'est que j'en avais un, puis ça s'est dévissé tout seul.
Non, il m'a dévissé tout seul. C'est que...
Il n'était pas dessus.
L'avantage, c'est que tu peux le dévisser et remonter sous l'eau.
Oui, c'est un
jeu de. C'est pour.
Le cyclant, il est bien. Le jet stream, au niveau débit continu, si tu ne le mets pas au niveau le plus dur, quand tu descends, moi j'ai vu un mec qui a fait vider la moitié de l'enveloppe en descendant sur quelques dizaines de mètres.
sport, j'extrime depuis des années, ça va, j'ai un Poséidon. Alors ce que j'aime bien, c'est Poséidon, c'est pour principe, tout ce qui sort à gauche est à gauche, tout ce qui sort à droite est à droite. Hein. Donc, le plus simple possible en matériel.
Qu'est-ce que je veux dire, ceux qui sont
à droite, tout ce qui est gaz dans mon dos, qui arrive sur la gauche, ils sont à gauche, ils sont à droite, etc. Rien n'est pire que d'avoir deux gaz différents qui arrivent dans des détendeurs comme ça, avec des gaz différents. Donc au moins, moi j'ai des gaz différents à droite et à gauche, et donc je sais que le détendeur qui vient sur la gauche, c'est du gaz de gauche, celui qui vient de droite, c'est du gaz de droite. Voilà. Et aussi, savoir qu'en cas de problème, eh ben, moi je suis droitier, ça sera toujours plus facile, je chercherai toujours plus facilement le détendeur qui est à droite, donc ça doit être le gaz fond qui doit être à droite. Que naturellement, c'est celui que j'attraperai le premier. C'est pareil pour l'oxygène, on met le mélange le plus suroxygéné, l'endroit le plus difficile à attraper. Voilà.
Ça, c'est clair, sur ça.
Pour essayer un peu de... Mais vous avez toutes sortes de configurations données, et il n'y a pas de solution particulière. Moi, j'ai essayé toutes sortes de choses, je suis toujours en train d'évoluer, je... Des plongées à 105 mètres, j'avais souvent fait, j'ai juste un lit. Alors, un 12 litres d'air, un 12 litres de mélange. Tu pars à pile poil, c'est-à-dire que tu te détends un peu à 3 mètres, là, t'es tranquille, tu respires 5 minutes sans détendeur, toi, t'es calmé, et hop, tu mets, tu descends, tu passes à 80, 90 ou 100 mètres, tu passes de l'air sur le trimix, tu restes 13 minutes, clac, ça commence à être limite, tu changes dans ces limites, tu remontes. Mais c'est pas des trucs à faire. Il y a une marge triple zéro. Mais ce qu'il faut éviter, c'est de promener un bloc qui fait 20 kg pour utiliser 377 litres d'air. À vous de trouver une autre solution. C'est-à-dire que le bloc que vous devez utiliser, essayez, quand vous avez des blocs en mer, hein, d'utiliser vos blocs aux trois quarts. L'idéal, c'est pratiquement de les avoir à zéro, après c'est plus facile pour remplir. Mais en étant toujours redondant, en ayant toujours une source de sécurité, et voilà. Mais après, en lac, c'est différent, parce qu'en lac, on a le seul danger du lac, c'est le débit continu, et en lac, la sécurité, c'est d'avoir du gaz. Voilà. Mais en mer, il n'y a pas trop de problème. Hein. Pas trop de problème. Et là, j'ai tendance toujours à être plus léger. Maintenant, quand je fais des plongées à 120 ou autre chose, j'ai toujours mon bi, 12 litres en plus, tranquille, de l'air, du mélange fond. Et puis, plutôt que de prendre un truc de déco, je peux souvent même prendre une pony de mélange fond. Voilà. De mélange sur fond. C'est-à-dire, je rajoute 30 ou 40 mètres même, 4 dérapages. Et puis ça passe. Mais après, c'est à vous de voir. À vous de voir, sachant que chaque fois qu'on change de l'étendeur, il y a un danger aussi. Ça paraît tellement facile à 20 mètres, je peux vous garantir qu'à 120 mètres, c'est une complexité très importante, le moins de changement de l'étendeur. Donc, moins on peut avoir changé d'étendeur, mieux c'est.
Qu'est-ce que tu appelles un mélange sur fond ? C'est un mélange avec lequel
tu vas... Si tu vas à 120, si tu as prévu d'aller à 120 mètres, tu te fais un mélange qui est bon à 150. Comme ça, tu as de la marge. Et en cas de problème, quand tu le prends, ça vient tout nettoyer, c'est encore plus léger et ça te booste d'un seul coup.
Donc en fait, ta plongée elle est prévue avec, avec ton bi et un bidon pour descendre et pour la déco, en gros, et puis un bidon pour le fond. Et ta bouteille traditionnelle, c'est une sécurité.
Attends, pas compris, tu répètes là.
Quand tu plonges,
ouais.
Donc tu as ton bi, une seule bouteille. Ah,
une bouteille latérale.
Dans la bouteille qui est latérale, tu as ton mélange sur fond,
oui,
qui n'est utilisé qu'à titre de sécurité.
Oui.
Et qui n'est pas consommé autrement,
puisqu'il n'y a
pratiquement pas d'eau dedans, de toute façon que de la pression.
Oui, il est visé qu'au fond, pas en déco.
Non, ça veut dire que pour la descente et pour la déco, tu n'utilises pas ton mélange fond, mais un seul effet de volume. D'accord, toi tu fais l'air.
L'avantage de l'air, c'est que c'est un mélange un peu universel et assez élastique. Et en plus, l'avantage de l'air, c'est que tu sais qu'en cas de problème, si tu n'as pas de décompression d'oxygène, etc., tu doubles tous les temps et... Tu doubles les temps à l'air, c'est bon.
Tu doubles les temps à l'air, en règle de base.
Règle de base. L'oxygène, ou les doubler les temps à l'air, c'est pareil.
Alors ce genre de...
Oui, mais donc si tu vas calculer à l'oxygène, tu doubles.
Donc voilà. Le dernier... Donc, le dernier palier, tu fais l'oxygène ou tous les paliers...
Non, tout ce que tu fais à l'oxygène.
Tout ce que tu fais à l'oxygène, tu doubles.
Et après, il y a toutes sortes de possibilités. Il n'y a pas de solution. Moi, j'essaye toujours toutes sortes de solutions. Il n'y a pas de solution idéale. Je sais que la solution idéale, c'est déjà de ne pas trop surcharger. C'est déjà une bonne chose.
Des gros principes, quoi.
Et après, soit vous êtes...
Bah, tu peux prendre des Sherpas qui portent des bouteilles.
Non, et jamais, jamais de mettre sur la ligne un bloc qui attend pour la déco surface ou un nitrox qui attendrait...
En général, il y a un principe aussi, c'est que quand on prévoit un problème, on se donne comme solution. C'est-à-dire que prévoir une sécurité, c'est déjà à moitié envisager la possibilité. Donc il faut partir avec un état d'esprit de ne pas envisager toutes sortes de systèmes de secours. C'est-à-dire que c'est pareil, le stéléo, il part avec l'état d'esprit de ne pas se perdre. Donc il va tout faire pour ne pas se perdre, il partra au fil d'Ariane. Pour vous mettre dans des situations où, voilà, où vous débrouillez en étant redondant d'un gaz sur l'autre, mais si vous commencez à vous utiliser les sécurités et de vous doubler, sur toi, tu dois être redondant et tu vas avoir une grande sécurité. Alors, autant c'est facile en training élémentaire où tout est standardisé. Vous prenez votre bloc, chaud oxygéné, vous montez, vous n'avez pas besoin de prendre de déco. Si ça vous amuse pour faire plus de tech, vous prenez une petite bouteille déco, puis c'est tout. Autant, là, c'est à vous totalement de concevoir votre plongée, votre décompression. Et voilà. Et c'est suivant les circonstances. Parfois, il est préférable d'être beaucoup plus léger avec point de bloc dans le courant et tout ça, que d'être surchargé. C'est pas évident. Avec on a plus de chances de consommer beaucoup plus avec 4 blocs qu'avec 2 blocs seulement. Après, c'est l'expérience. C'est important de connaître sa configuration. Après, c'est de connaître. Voilà. Parce que les Américains, c'est très simple. Ils sont configurés toujours pareil. Ils ont le bloc ponté où ils font les exercices au milieu. Moi, je n'aime pas, j'ai arrêté de les faire. Pourquoi ? Parce que c'est un exercice qui est super facile à réaliser. On se met sur le fond, on monte un peu, on le ferme et on est tout content. Puis on se chronomètre, on fait ça en moins de 30 secondes, il y a des compétitions, moins de 20 secondes, voilà. Je peux vous garantir que j'ai vu des coups de stress par 80 mètres, il n'y a aucune chance que le gars dise impossible. Sur un coup de stress, en cas de problème sur le fond, ça ne marche jamais. Ça, c'est mis au point par des spéléos qui se promenaient sur des... Dans des galeries par 20 mètres de fond, 30 mètres de fond, ils s'assoient, ils ont le temps, ils sont tranquilles. On n'est pas du tout dans la même situation. Dès qu'on est sur, disons, 120 mètres, il y a une pression du temps qui est inimaginable. Inimaginable, et ce genre de petit exercice, ça ne marche pas. Alors, quand on fait de la plongée loisir, c'est bien, mais ça ne sert à rien. Le seul avantage, c'est de ne pas avoir à changer d'embout, parce que c'est toujours très mauvais d'avoir à changer d'embout. Ça paraît anodin en plongée normale, mais on dit qu'il y a plus de 100 mètres, changer d'embout. Tu as fait des changements d'embout sur ton avion ?
Oui, mais à 60.
Non, mais pas à 120.
Ah non, on s'amuse pas à faire.
Ah bah non, si tu parles en plongée spéléo, moi j'ai fait d'autres choses. J'ai fait des changements à 130, ainsi de suite, et tout ça. Et ça marche toujours. Putain, je remontais à chaque fois. Putain, je suis une bête. Et le jour où il y a moins de pépins, vous n'êtes plus tout la bête du tout et vous ne gérez rien du tout. C'est-à-dire que ça marche toujours dans les situations où ça va bien, et dès que vous êtes confronté à un problème, ça ne marche plus. La seule chose qui marche quand il y a un problème, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc le plus simple, c'est de ne pas changer d'embout, et c'est rien à voir. Donc essayez de vous mettre un groupe de 3, essayez de voir. Alors attendez, deux choses. En fait, ce qu'il faudrait voir, c'est éventuellement ceux qui sont intéressés pour venir à Bécon, pour essayer de projeter une plongée à la con. C'est-à-dire qu'on va définir un mélange hypoxique, bien hypoxique, mortel en surface, et de façon à se mettre en configuration pour utiliser des... Pas du Cespo Sport, du de façon à configurer une plongée avec des difficultés, mais pour reproduire, pour être dans une situation de contrainte par rapport à votre matériel. Ouais. Hein, parce que vous ne pouvez pas remonter avec votre 10%.
Non. C'est bon,
descendre, respirable à 6 mètres.
Il n'y a rien à voir dans le crâne. Comme c'est le cerveau qui consomme le plus, il faut que rien dans le cerveau. Ça n'a pas de problème. Donc, alors, vous mettez là, on va d'abord concevoir une plongée, on va dire 80 mètres, c'est une plongée relativement facile, classique, ordinaire. Donc, mettez-vous par groupe de 3, essayez de réfléchir. Voilà, vous devez choisir votre temps, votre profondeur, votre organisation, et voilà. Et le plus lourd, quand j'organise des stages, c'est que là, quand j'organise des stages dans des clubs et où ils ont leur propre matériel, et ben, ils sont confrontés par rapport aux limites de la navigation. C'est-à-dire que leur matériel, leur bateau ne suit pas, ils n'ont pas de ligne de vie jusqu'à la profondeur, leurs sondeurs n'ont pas la puissance suffisante pour aller jusqu'au fond, ils ne savent pas faire des brouillages par 100 mètres, et tout le bordel. Voilà. Donc les solutions IACA, ça marche très bien à 20 mètres, ça ne marche plus à 100 mètres. Mais 80 mètres, c'est... là on est encore dans la limite de la plongée entre le loisir et le tech, quoi. Moi je pense que la plongée, ça change, oui, on dit que ça change à 40, ça va changer à 60, à 80, à 120, ça change.
Bonne fête de fin d'année à tous.
Donc meilleur vœu. Essayez d'être ensemble, de discuter comment vous voyez votre plongée. On va faire une plongée à 80 mètres. Okay. Et combien de temps vous voulez. Souvenez-vous du principe aussi qu'il est toujours préférable de faire deux plongées d'un quart d'heure plutôt que de plonger d'une demi-heure. C'est-à-dire que la plongée d'une demi-heure coûte plus cher en temps, plus cher en gaz, plus cher en risque. Et les risques explosent et le temps de survie diminue au fur et à mesure que le temps passe.
Pourtant, je croyais qu'en gros, à cause de toute la logistique à mettre en place, on pensait que c'était une journée et puis plonger jour.
Oui, plonger jour, oui.
Quand tu dis une plongée jour, ça suit tendance à filer 20 minutes au fond.
20 minutes à 80, mais après, si vous faites, il y a deux choses à faire qu'on n'a pas vu. Quand vous planifiez votre plongée, vous avez dit 105. Un, on prévoit des gens à temps court de 5 minutes. Pourquoi ? Parce qu'on arrive, ça merde, etc. Donc c'est pas la peine d'aller se taper, il faut déjà prévoir une sortie de course. Et après, il faut prévoir quelques minutes après de dérapage. Mais le dérapage, il faut prévoir dans la limite que ce qu'on tient n'est pas rien de se faire 5 minutes de plus, 10 minutes de plus, 15 minutes de plus sur la
balayade. On avait été à 70 mètres sur trois pilleurs, c'est ce qu'on avait fait. On avait fait une planification avec le profil qui était idéal, puis on avait rajouté...
Parfois, une ou deux minutes, ça suffit, c'est énorme, une ou deux minutes au fond.
Deux calculs, on avait fait avec c'est-à-dire de cet ordre-là, quelques minutes de plus, mais pas énormément. Et la profondeur, on avait glissé, en fait, de quelques mètres. Donc, on avait notre truc normal. Si, en fait, on avait été un petit peu plus bas, dans ce temps imparti, parce qu'on n'était pas tout. Et si on était resté à la profondeur qui était voulue, si jamais on faisait notre profil, pour pas de raison, parce qu'on était loin d'être pour revenir, parce que, je ne sais pas, on peut imaginer ce qu'on veut, on avait fait, on avait notre déco normal et une déco qui était majorée avec deux dérapages. En variable séparée, soit en
téléphone, ça c'est court, c'est pas portable, ça
c'est mais j'ai gardé ma torche pour le moment.
Donc pensez à un congé de 80 mètres, on va dire le Léopold, Non mais vous êtes parti, vous n'avez pas parlé entre vous, vous allez avoir comme l'autre, combien de jours vous allez prendre, quel mélange vous allez mettre dedans. Et donc vous discutez, hein. Sachant que vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les mêmes conditions, c'est pas gênant, hein. Mais vous allez voir entre vous, qu'est-ce que vous allez faire. Je propose pas ça. Vraiment, tu proposes l'arrêter maximum, tu
dis 160, tu restes à 60, tu construis le service. Oui, non, mais il dit à moi, il dit, j'en ai fait beaucoup, mais là, je fais un autre.
Ça, c'est pas défendre les gens.
Je vais faire un peu de l'air. Après, je vous ai imposé une plongée avec 4 blocs avec
50 mètres. Oui, mais on est parti à 50 mètres. Vous avez 40 mètres.
Oui.
c'est pas vu.
Oh oui, je vous l'ai dit, il a tellement débordé.
Oui.